de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La Corée du Nord renforce son armée suite à la déclaration américaine. Les Seychelles renforcent leur coopération avec le Vietnam. Tous les matchs des SEA Games 2023 au Cambodge sont gratuits. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. La Corée du Nord augmentera sa capacité de dissuasion militaire pour faire face à la Corée du Sud et aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé dimanche le média officiel du Nord-Coréen, KCNA. La Corée du Nord a critiqué le sommet américano-sud-coréen de la semaine dernière qui a convenu d'une dissuasion nucléaire américaine et l'a qualifié de produit d'une politique odieuse hostilité envers Pyongyang. Après la réunion à Washington, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le président américain Joe Biden ont annoncé la déclaration de Washington. La déclaration stipule que les États-Unis partageront des informations sur les opérations et la planification nucléaire et stratégique et transféreront régulièrement des actifs stratégiques à la Corée du Sud. Les Seychelles espèrent que la coopération bilatérale avec le Vietnam continuera à augmenter dans tous les domaines, notamment dans le tourisme, les télécommunications, le commerce, l'investissement et la pêche. Lors de sa rencontre avec le nouvel ambassadeur vietnamien au Mozambique et aux Seychelles, Pham Huang Kim, le président des Seychelles, Wafel Ramkalawan, a exprimé son admiration pour la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance et la liberté. Antara a rapporté dimanche que le président Ramkalawan a également félicité le Vietnam pour son développement socio-économique impressionnant, en plus d'accroître son rôle et son prestige sur la scène internationale. L'ambassadeur Pham Huang Kim a proposé que les Seychelles créent de bonnes conditions pour que le Vietnam augmente les exportations de divers produits nécessaires aux Seychelles. Le gouvernement cambodgien, en tant que pays hôte de SEA Games 2023, a annoncé que les billets pour les SEA Games sont gratuits pour les spectateurs et a également accordé un droit de transmission télévisée avec les termes et conditions qui s'appliquent. Concernant cette politique, le chef de mission du contingent indonésien au SEA Games 2023, Lexindo Hakim, a déclaré qu'il se coordonnerait avec l'ambassade d'Indonésie à Phnom Penh concernant les souhaits des citoyens indonésiens au Cambodge qui souhaitent soutenir directement la lutte des athlètes nationaux en cas de multi-épreuve. Lexi l'a dit dans sa déclaration lundi, citée par Antara, Non seulement il libère tous les billets de match et les droits de diffusion télévisés, le règlement permet également aux fans de regarder gratuitement en direct les cérémonies d'ouverture et de clôture du plus grand événement sportif d'Asie du Sud-Est. Les délégations participantes ne seront également pas facturées du tout. C'est une étape importante dans l'organisation des SEA Games parce que le Cambodge est le premier pays à tout rendre gratuit. SEA Games 2023 Cambodge se déroule du 5 jusqu'au 17 mai 2023. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a promis dimanche d'introduire de nouvelles politiques pour augmenter le salaire minimum et a annoncé son intention d'étendre les exonérations fiscales pour les personnes à faible revenu. Reuters a rapporté l'annonce diffusée à la radio et à la télévision lors de la célébration de la fête du travail de lundi, qui est un jour férié, renforcera la stratégie de gauche de Lula pour augmenter les revenus des travailleurs afin de stimuler la croissance économique. Selon Lula, il soumettra un projet de loi au Congrès afin que des ajustements au salaire minimum puissent être effectués chaque année en fonction du taux d'inflation. Il a également déclaré que exonérations fiscales seront réalisées par étapes jusqu'à la fin de son mandat de bureau en 2026 pour les travailleurs avec des salaires jusqu'à 5 000 reais ou environ 14,7 millions par mois, toutefois pour tenir les promesses de campagne. L'Indonésie assurera la réalisation des principaux piliers de la présidence indonésienne de l'ASEAN 2023. L'Indonésie assure qu'elle supervisera la réalisation des trois principaux piliers de sa présidence dans l'ASEAN 2023. C'est ce qu'a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Tengku Faizashah, lundi, et le premier pilier, à savoir ASEAN Matters. L'Indonésie a préparé la grande vision de l'ASEAN 2045 et la discussion sur le processus du projet de déclaration des dirigeants de l'ASEAN pour renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité de l'ASEAN. Concernant le premier pilier, entre autres, la négociation du texte de code de conduite, l'éradication du crime de traite des personnes, le renforcement de l'institutionnalisation du dialogue sur les droits de l'homme dans l'ASEAN, la préparation de feuilles de route pour l'adhésion de Timor-Leste, et la signature du protocole sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est. Dans le deuxième pilier, l'épicentre de la croissance, un certain nombre de priorités ont été discutées, telles que le renforcement de l'architecture de la santé à travers l'initiative Une seule santé, le renforcement de la sécurité alimentaire et le renforcement de la sécurité énergétique, y compris à travers le développement de l'écosystème du véhicule électrique et l'engagement à utiliser monnaie des pays de l'ASEAN dans les transactions commerciales. Sur le troisième pilier, il y a la mise en œuvre des perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique. Et chers amis, la dernière nouvelle, l'Indonésie a discuté du renforcement du système régional de réserve de riz dans APTER. L'Indonésie, par l'intermédiaire de l'Agence nationale de l'alimentation, a discuté du renforcement du système régional de gestion des réserves de riz dans le but d'anticiper les impacts du changement climatique et de la gestion des catastrophes naturelles dans la région asiatique lors du forum de la réserve de riz d'urgence de l'ASEAN plus 3 qui se tenait à Séoul, la Corée du Sud. Celle transmise par le directeur de distribution et des réserves de l'Agence nationale de l'alimentation, Rahmi Widiaryani, dans un communiqué reçu à Jakarta dimanche. Lors du forum, Rahmi a souligné le rôle important de la réserve de riz d'urgence de l'ASEAN plus 3 pour assurer la sécurité alimentaire régionale. Le renforcement de la sécurité alimentaire régionale est conforme à l'initiative de l'Indonésie en tant que président de l'ASEAN 2023. Comme indiqué dans la déclaration de dirigeants de l'ASEAN sur renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition en temps de crise. Chermi, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Ces éditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Des dizaines de milliers de personnes ont fui le Soudan en raison de la violence ». Les combats qui ont éclaté dans la capitale soudanaise, Khartoum et ailleurs dans le pays étaient le résultat de guerres des manœuvres des dirigeants militaires pour le pouvoir. Cela a entraîné une vague de réfugiés quittant le pays en Afrique du Nord-Est. Selon un rapport de l'ONU, plus de 33 000 personnes ont fui le Soudan vers les pays voisins depuis le déclenchement de violents conflits il y a 2 semaines. La plupart d'entre eux sont des femmes et des enfants. Les Nations Unies ont ajouté que 75 000 autres personnes au Soudan se sont retrouvées sans abri à cause du même conflit. Environ 20 000 Soudanais ont fui vers le Tchad, 6 000 autres vers le pays voisin, la République centrafricaine, et 3500 autres vers l'Éthiopie. C'est ce qu'a rapporté l'UNHCR, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, à l'agence de presse française AFP, dimanche 30 avril. Pendant ce temps, selon le site officiel du ministère indonésien des Affaires étrangères, pas moins de 385 citoyens indonésiens au Soudan ont également été évacués par le gouvernement à l'aide d'avions Garuda et sont arrivés à Jakarta le vendredi 28 avril. C'est l'arrivée du premier groupe de citoyens indonésiens vivant au Soudan. Pendant ce temps, l'évacuation du deuxième groupe de citoyens indonésiens du Soudan a été effectuée à l'aide d'un avion de l'armée de l'air indonésienne les 29 et 30 avril. Je veux dire les 29 et 30 avril. Ang sa tanong ka, depe ugzok sidang to ang tagal mga evakue laksto yung dusudang. Sepangdang ang rezong de la deterioration de la situation sécuritaire à l'aéroport de Soudan, l'évacuation par voie aérienne n'est actuellement plus possible. Le 15 avril 2023, des violents affrontements ont éclaté au Soudan entre les forces armées et la milice paramilitaire des forces de soutien rapide RSF. Cela fait suite au pic de tension entre le général des forces armées Abdel Fattah al-Burhan et le chef des RSF Mohamed Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de Mediti. À travers la pression internationale, les deux groupes belligérants au Soudan ont convenu à plusieurs reprises d'un cessez-le-feu. Néanmoins, la violence n'avait pas cessé. La guerre civile au Soudan jusqu'ici fait 528 morts et 4500 blessés. Comme dans toute guerre, ceux qui souffrent le plus des effets de la guerre sont les civils, surtout ceux appartenant à des groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les personnes âgées. Le statut de réfugié est un moyen de trouver la sécurité, même si ce n'est pas facile. Espérons que le conflit violent au Soudan puisse bientôt se terminer afin qu'il n'y ait plus de victimes et qu'il ne soit pas nécessaire que les citoyens soient forcés de fuir vers d'autres pays dans des conditions déplorables. Ces auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023, est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 1er mai. On commence par le 1er mai 1956, on a découvert la maladie de Minamata. La maladie de Minamata ou syndrome de Minamata est un syndrome de dysfonctionnement neurologique causé par une intoxication aiguë au mercure. Les symptômes de ce syndrome comprennent des pissotements dans les pieds et les mains, une faiblesse, un rétrécissement de la vision et une dégradation des capacités d'élocution et d'audition. Au stade aigu, ces symptômes s'aggravent généralement jusqu'à la paralysie, la folie, la coma et finalement la mort. Le nom de la maladie est tiré de la ville de Minamata, préfecture de Kumamoto au Japon, qui est la région où la maladie était devenue épidémique en 1950. À cette époque, il y avait une épidémie dans la ville japonaise de Minamata. Des centaines de personnes sont mortes d'une maladie étrange avec des symptômes de paralysie nerveuse. Le 1er mai 1963, l'île Riang de l'Ouest est devenue une partie de l'Indonésie par la reddition de l'UNTEA, basée sur l'accord de New York de 1962. Le 1er mai 1963, l'île Riang de l'Ouest est devenue une partie de l'Indonésie. L'UNTEA, ou Administration exécutive temporaire des Nations Unies, a remis l'île Riang de l'Ouest à l'Indonésie avec une note indiquant qu'en 1969, il devait y avoir un vote populaire. L'Indonésie, qui a proclamé son indépendance le 17 août 1945, a également revendiqué l'ensemble du territoire des Indes orientales néerlandaises, y compris la région occidentale de l'île en l'île Riang. Cependant, les Néerlandais considéraient toujours l'île Riang comme l'une des provinces du royaume des Pays-Bas. Le président Sukarno a ensuite formé le commandement du Mandala de libération de l'île Riang de l'Ouest et a annoncé le Tricommando Rakyat, ou mieux connu sous le nom de Tricora, comme une résistance contre les Néerlandais pour combiner l'île Riang de l'Ouest avec l'Indonésie en octobre 1962. Les Pays-Bas ont remis l'île Riang de l'Ouest à l'UNTEA. En 1969, la détermination de l'opinion du peuple d'Irian Jaya ou Pepera a eu lieu. En conséquence, les habitants de l'île Riang de l'Ouest souhaitent toujours rejoindre la République d'Indonésie. La suite, la Journée mondiale du travail. Le 1er mai 1886, environ 400 000 travailleurs aux États-Unis ont organisé une manifestation massive exigeant une réduction de leur heure de travail à une journée de 8 heures. Cette action dure 4 jours à partir du 1er mai. Avant l'incident du 1er mai, dans divers pays, des grèves ouvrières ont eu lieu pour exiger un traitement plus équitable de la part des propriétaires du capital. En juillet 1889, le Congrès socialiste mondial qui s'est tenu à Paris a désigné l'événement aux États-Unis le 1er mai comme la Journée mondiale du travail et a adopté une résolution. Depuis 1890, le 1er mai, connu sous le nom de May Day, est observé par les travailleurs de divers pays, malgré de fortes pressions de leur gouvernement. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie ayant pour le titre Bappenas et l'Université de Stanford vont collaborer au développement de l'économie bleue. Le ministère de planification du développement national, PPN, l'Agence nationale de planification du développement, Bappenas, collabore avec l'Université de Stanford aux États-Unis dans le développement d'une économie bleue en Indonésie. La collaboration a été convenue sous la forme d'un protocole d'accord signé par la sous-ministre des Affaires économiques du PPN de Bappenas, Amalia Adiningar Widyaisanti, et le doyen de la Duke School of Sustainability en tant que représentant de l'Université de Stanford, Arun Majumdar, à Jakarta vendredi. Le ministre du PPN en tant que chef de Bappenas, Suharso Monwarfa, cité sur l'Instagram officiel @suharsomonwarfa à Jakarta, a déclaré vendredi 28 avril que les domaines de coopération explorés entre les deux parties sont la planification, la mise en œuvre ainsi que le suivi et l'évaluation des développements de l'économie bleue. En outre, le renforcement des connaissances et des capacités par la formation, la recherche, le plaidoyer et les programmes ou projets, y compris dans le domaine des aliments à base de ressources marines ou aliments bleus. En notre forme de coopération qui est faite est le développement international dans le développement d'une économie bleue pertinente pour l'Indonésie et d'autres collaborations potentielles convenues par les deux parties. La mise en place de la collaboration a duré 3 ans à partir de la signature du protocole d'accord. Suharto expliquait que le gouvernement a pris l'initiative d'encourager le développement de l'économie bleue en Indonésie pour créer une économie forte et durable. Il a expliqué que la construction d'une économie bleue durable peut contribuer à augmenter les revenus des activités basées sur la mer qui peuvent ensuite être réaffectées à la conservation marine. Cette activité encourage les moyens de subsistance durable pour les communautés côtières et préserve la biodiversité marine en restaurant les écosystèmes marins et côtiers. Suharto a également déclaré que le concept d'économie bleue a été développé pour répondre aux défis d'un système économique qui a toujours tendance à être exploitant et dommageable pour l'environnement, c'est-à-dire dépassant la capacité ou la capacité de charge des écosystèmes. Il a souligné que l'économie bleue est le développement durable qui fait partie et en même temps l'enrichissement de l'économie verte avec la devise « le ciel bleu, le ciel bleu » ou « l'économie peut croître ». Les gens prospèrent, mais le ciel et la mer restent bleus. Dans le même temps, l'économie bleue constituera également la base de la stratégie de transformation économique de l'Indonésie vers une croissance économique inclusive et durable. C'est auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kamu kan
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Cerita, la danse togal est une danse traditionnelle de la tribu Makian, la résidence de Halmahera du Sud, les Moluques du Nord. Cette danse combine plusieurs éléments, à savoir la musique, la danse, la poésie et des rimes. Cette tradition se poursuit depuis les temps anciens et jusqu'à présent est maintenue comme une tradition du peuple Bokimiake. La tenue de cette danse est une forme d'obéissance au patrimoine ancestral ainsi qu'un effort pour préserver la musique traditionnelle. Dans la musique togal, il y a au moins quatre instruments de musique, à savoir le violon, le gambus, le gong et le tifa ou tambouran à tambour. Des quatre instruments de musique, le rôle le plus dominant est le violon, car les touches de violon sonnent pour réguler le rythme du mouvement des personnes qui dansent dans la musique togal. En plus d'être présenté pour animer la cérémonie de mariage, l'art togal est également généralement pratiqué lors d'événements traditionnels ou d'accueil d'invités. Pour les événements traditionnels ou pour aller chercher des invités, les danseurs qui accompagnent la musique togal ne sont généralement que 5 paires d'hommes et de femmes. Pendant ce temps, lors des mariages, le nombre de danseurs est plus grand. Même les danseurs peuvent atteindre des centaines de personnes selon la taille du lieu de l'événement. L'art togal qui est présenté lors d'événements traditionnels ou pour aller chercher des invités est généralement suivi d'une comptine contenant des conseils pour faire le bien en citant les versets sacrés du Coran et des hadiths ou des messages des ancêtres. Pour les mariages, il est parfois accompagné de rimes dont le contenu n'est que de donner des ordres à ceux qui dansent. Les mouvements de danse dans l'art togal ne sont généralement pas compliqués, donc n'importe qui peut les faire. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Demain, nous nous retrouvons avec le sujet plus intéressant. À bientôt!
Jadikanlah don't never give up. Show up and dress up. Be what you wanna be. Get up and stand up. Don't never give up. Show up.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est keberangkatan di bandara. Kirapet. Keberangkatan di bandara signifie le départ de l'aéroport. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? Kirapet. Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu signifie est-ce la porte de destination de Kuala Namu? Cette conversation a eu lieu entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et l'agent d'embarquement de l'aéroport Soekarno-Hatta de Banten. Chris a confirmé à l'officier de la porte d'embarquement pour le vol vers l'aéroport de Kuala Namu à Sumatra du Nord. Écoutons la conversation.
Perhatian! Para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA180 tujuan Kuala Namu dipersilahkan segera masuk ke ruang tunggu melalui pintu 11.
Permisi, apakah ini pintu tujuan Kuala Namu?
Ya, betul. Ini pintu menuju pesawat Garuda Indonesia tujuan Kuala Namu.
Après avoir écouté la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu signifie est-ce la porte de destination de Kuala Namu? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Apakah? Apakah signifie est-ce? Ini pintu tujuan Kuala Namu. Ini pintu tujuan Kuala Namu. Signifie c'est la porte de Kuala Namu. Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? Signifie est-ce la porte de Kuala Namu? Ruang tunggu. Ruang tunggu signifie salle d'attente. Nomor penerbangan. Nomor penerbangan signifie numéro de vol. Dans la conversation, vous entendez apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? Je répète, Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? Signifie est-ce la porte de destination de Kuala Namu? Dans cette phrase, il y a un mot interrogatif. Apakah? Apakah signifie est-ce? Le mot interrogatif apakah, je répète, apakah signifie est-ce dans cette phrase utilisée pour confirmer. Pour confirmer quelque chose, vous pouvez utiliser le mot interrogatif apakah, je répète, apakah signifie est-ce, puis suivi de quelque chose à confirmer, comme ini pintu tujuan Kuala Namu. Ini pintu tujuan Kuala Namu signifie c'est la porte de destination Kuala Namu. Donc ça devient apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? Apakah ini pintu tujuan Kuala Namu? Signifie est-ce la porte de destination de Kuala Namu? Un autre exemple, en plus d'utiliser le mot interrogatif apakah, je répète, apakah signifie est-ce pour confirmer quelque chose, vous pouvez utiliser une intonation interrogative. Allez, écoutez des exemples de questions pour confirmer quelque chose. Ini pintu tujuan Juanda? Ini pintu tujuan Juanda? Signifie est-ce la porte de destination Juanda? Ini pintu 11. Ini pintu 11 signifie est-ce la porte 11? Avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Perhatian para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA180 tujuan Kuala Namu dipersilahkan segera masuk ke ruang tunggu melalui pintu 11.
Permisi, apakah ini pintu tujuan Kuala Namu?
Ya, betul. Ini pintu menuju pesawat Garuda Indonesia tujuan Kuala Namu.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Kita tak lagi
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the world.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson keroncong intitulée Bintang di Surga, chantée par Felix Irawan. Chers amis, la chanson Bintang di Surga est en fait l'ancienne chanson de Peter Pan du deuxième album du même titre. Bintang di Surga est décrit par Aril, le créateur de cette chanson, comme quelqu'un qui est riche en tout, mais pas dans son cœur. Vous attendez donc à quelque chose d'extraordinaire. De plus, cette chanson dit aussi qu'il faut être courageux pour affronter n'importe quoi, car un jour, nous tomberions. Bonjour, chers auditeurs, voici Felix Irawan va chanter une chanson keroncong intitulée Bintang di Surga. Bonne écoute! Kasih yang setia
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.